Vous écoutez, on lit pour vous.
En France, le spectre d'une nouvelle désindustrialisation plane. Un texte de Raphaël Miro, paru le 2 février 2026 dans Le Devoir. Quand on se promène dans la ville d'Arc, il est difficile de ne pas sentir la présence de l'industrie verrière. Les noms des commerces, les statues au rond-point et même les armoiries de la ville font référence aux verres à vin qui sont fabriqués ici depuis 200 ans. Environ 3500 personnes travaillent à la verrerie d'Arc France, d'où sortent chaque jour plus de 2 millions de verres, d'assiettes ou de tasses en tout genre. Même sans compter les emplois induits, c'est de très loin le premier employeur de l'agglomération, souligne Benoît Roussel, maire de la petite ville de 9400 habitants. Ça a longtemps été l'un des poumons économiques du nord de la France, rappelle l'édile au Devoir, non sans une pointe de fierté. Mais, depuis quelques semaines, un vent d'inquiétude plane sur Arc et les villes avoisinantes. Arc France, en grande difficulté financière depuis plusieurs années, a annoncé début janvier 2026 s'être mise en redressement judiciaire, une procédure française semblable à la mise à l'abri des créanciers au Canada. L'entreprise a dû choisir entre présenter un plan de restructuration ou se redresser, très probablement en supprimant des emplois. Pour le moment, on parle de supprimer 800 emplois, si ce n'est pas plus, s'inquiète Frédéric Speck, dans le local du syndicat de la Confédération générale du travail, CGT. Ce délégué syndical, qui échange avec la direction sur les plans de restructuration, imagine même le pire. Ça fait des années que l'entreprise va mal, mais cette fois-ci, c'est la première fois qu'on imagine que ça pourrait un jour s'arrêter complètement, explique le quinquagénaire, salarié depuis près de 40 ans. Pour une personne de mon âge qui a travaillé toute la vie dans l'usine, ce sera impossible de trouver du travail ailleurs. Long déclin. La fermeture de la verrerie d'Arc s'inscrit dans une série de déboires industriels qui, depuis 2024, préoccupent la classe politique française. En décembre 2024, le fabricant d'électroménagers, Brandt, bien connu du public pour ses machines à laver, a annoncé être en liquidation judiciaire et licencier ses 700 employés au sud de Paris. Plus tôt dans l'année, le géant de la sidérurgie ArcelorMittal avait annoncé supprimer 600 postes dans 7 usines du nord du pays. Selon un recensement publié par le journal économique Les Échos, plus de 10 000 emplois auraient été supprimés ou compromis de septembre à décembre 2025 sur plus de 165 sites industriels, contre 120 durant la même période l'an passé. Avant le début de 2024, le nombre de fermetures d'usines était resté plutôt stable durant une décennie, grâce à un soutien actif du gouvernement français. En ce moment, les entreprises font face à une conjoncture très difficile, en grande partie à cause de la hausse des coûts de l'énergie qui les rend moins compétitives sur le marché international, explique Marie Ferroux-Clément, professeure d'économie et de géographie à l'Université de Poitiers. Les fermetures en cours s'inscrivent dans une désindustrialisation qui a commencé dès les années 1950 et qui ne s'est jamais vraiment arrêtée, estime Marion Fontaine, professeur d'histoire à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste du phénomène. De 1962 à 2021, la part d'ouvriers dans la population active en France est passée de 39 % à 19 % selon les chiffres du ministère de l'Économie. Pendant longtemps, les élites politiques et économiques ont considéré que la désindustrialisation était un phénomène inévitable, et que l'avenir de la France était dans les secteurs du tertiaire, comme le luxe, le tourisme ou les services, ajoute l'historienne. À partir des années 2010, il y a eu le sentiment que cette désindustrialisation était allée trop loin et qu'il fallait maintenir une certaine force industrielle pour préserver sa souveraineté, détaille-t-elle. Des politiques de réindustrialisation ont été mises en place par les gouvernements français à coups de subventions et d'achats publics qui ont permis de freiner le recul. Quand l'économie va mal, la désindustrialisation continue, poursuit Mme Fontaine. D'ailleurs, j'observe que la baisse de l'activité industrielle se produit aussi au Canada, mais que c'est moins dans le débat public qu'ici, explique la chercheuse qui a participé à des recherches communes avec des politologues québécois. Zone sinistrée. Si la nécessité de freiner la désindustrialisation fait débat parmi les économistes français, l'impact des fermetures d'usines sur les régions avoisinantes ne fait aucun doute. Ça a été un processus qui a été et qui continue à être très dur pour les territoires touchés, ajoute Marion Fontaine. Aujourd'hui, ce sont des départements où l'extrême droite française prospère, note-t-elle. L'Aisne et le Pas-de-Calais, où se trouve la ville d'Arc, ont été les tout premiers départements à être remportés par l'extrême droite à l'occasion d'une élection présidentielle lors de la défaite au second tour de Marine Le Pen en 2017 et restent aujourd'hui largement acquis au Rassemblement national. Si l'usine ferme un jour, Arc sera une zone sinistrée, prévoit Frédéric Speck, attablé avec des collègues dans son petit local syndical. La ville a déjà beaucoup pâti du recul du secteur industriel. Il y a 20 ans, Arc France y employait 12 000 personnes, contre 3 500 aujourd'hui. Si une partie de cette baisse est attribuable à la vente de certains services, la production de verre dans la ville a baissé environ de moitié et de nombreux emplois ont été perdus. L'usine a réduit sa superficie, ce qui laisse de larges pans de terrain inoccupés près du centre-ville. Vous voyez le terrain vague derrière le local? J'ai commencé à travailler ici, se rappelle M. Specht, en désignant une friche envahie par les mauvaises herbes. Il y avait 10 fours à verre qui chauffaient en permanence dans cette section. Aujourd'hui, tout a été rasé, déplore-t-il. Un peu plus loin, au bord de la rivière par laquelle arrivait le sable pour être transformé en verre, la ville a laissé en place l'ossature d'un ancien entrepôt qui attend de trouver une nouvelle utilisation. Même si des emplois ont été perdus, on a réussi à attirer beaucoup d'entreprises dans les terrains et les bâtiments laissés par l'usine, souligne le maire Benoît Roussel. Quand une ville ferme, la zone industrielle peut souvent servir de terreau à de nouvelles industries. Mais ça prend du temps, précise Marie Ferroux-Clément. L'économiste remarque qu'en plus des emplois directs, au moins autant d'emplois de sous-traitants, de commerces ou d'entreprises de services peuvent être perdus lors de fermetures d'usines. Les jeunes s'en vont. La perte d'emplois est un choc pour les ouvriers. Alors l'État français dépense beaucoup d'argent pour payer du chômage, les aider à prendre leur retraite ou leur retrouver du travail, explique l'historienne. En revanche, pour les générations plus jeunes, il y a peu d'aide et ça devient très difficile de trouver du travail sur le territoire. Beaucoup de jeunes doivent partir ailleurs pour travailler, sinon ils restent coincés, confirme Christophe Chauchois, collègue de Frédéric Speck à l'usine et responsable de la sécurité des fours à verre. La région, elle vit autour de l'entreprise, les commerces, les boulangeries. Tout ça, c'est lié. Si ça ferme, ça va faire comme avec le charbon, craint le quinquagénaire, lui aussi élu dans un syndicat. Le nord de la France a longtemps prospéré grâce aux mines de charbon, situées à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Arc. À partir des années 1950, celles-ci ont progressivement fermé, suivies de peu par les usines d'acier et de voitures. Aujourd'hui, malgré les efforts du gouvernement pour relancer l'industrie, la région reste l'une des plus pauvres du pays. Dans les villes où ça a fermé, ça a pris 30 ans pour se relever, se souvient M. Chauchois. Si on peut même dire qu'elles se sont relevées. C'était « En France, le spectre d'une nouvelle désindustrialisation plane », un texte de Raphaël Miro, paru le 2 février 2026 dans Le Devoir.
Le cycle menstruel influence-t-il les performances sportives? Un texte de Catherine Enfield et Florence Dancause, paru le 20 février 2026 dans la presse. En terminant son programme court, mardi, le 17 février 2026, aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Amber Glenn s'est agenouillée sur la glace, la main droite posée sur le cœur, la détresse dans les yeux. Et dans la zone d'attente, l'athlète de 26 ans a éclaté en sanglots. Elle savait que l'erreur qu'elle venait de commettre, transformer sa triple boucle en double boucle, venait de lui coûter son rêve olympique. Sur Instagram, Amber Glenn a relayé une publication à propos de l'impact du cycle menstruel sur la performance des athlètes, entre autres sur le niveau d'énergie et de concentration. Ça peut également vous rendre très émotive lors de situations de stress élevé, a ajouté la patineuse artistique, en référence à ses sanglots qui ont ému les téléspectateurs. En entrevue avec les médias, le lendemain, Amber Glenn a parlé du manque d'équilibre qu'elle a ressenti. « J'avais les jambes un peu en coton. « A bit noodly », a-t-elle commenté. L'impact du cycle menstruel varie beaucoup d'une personne à l'autre et c'est un domaine qui demeure peu étudié et peu pris en considération, souligne Mylène Aubertin-Leheudre, professeure de kinésiologie à l'UQAM. Moins de 10 % des études en sciences du sport ciblent exclusivement les femmes. Il ne faut pas le prendre en disant « Oh ben là, elle cherche une excuse, elle avait ses règles, ça arrive à tout le monde. » « Ben non, ça se peut », dit Mme Aubertin-Leheudre. Bien des femmes le ressentent. Selon une étude conduite par la gynécologue et médecin du sport Carole Maître, en 2011, sur 363 sportives interrogées, 83 % subissaient un syndrome prémenstruel et plus du quart ressentaient une gêne à leur performance, surtout liée à la fatigue prémenstruelle. Les menstruations et la période prémenstruelle sont associées à davantage de symptômes, met en lumière Florence Morin, collaboratrice à l'Institut national du sport du Québec, INS Québec, qui explique que l'intensité de celle-ci pourrait expliquer les variations des performances des athlètes. Il y a donc des effets de ressenti, mais il y a aussi des mécanismes physiologiques qui peuvent l'expliquer, indique la professeure Aubertin-Leheudre. Les hormones en cause. Les hormones fluctuent pendant le cycle menstruel. C'est le cas de la testostérone, qui améliore la communication entre le cerveau et les muscles et facilite leur contraction, des atouts précieux dans les épreuves de puissance et de rapidité, comme le patinage artistique. L'estrogène et la progestérone, pour leur part, ont des effets opposés en termes de puissance musculaire. L'estrogène, présente en début de cycle menstruel, a un effet neuroexcitateur, mais la progestérone, plus présente en fin de cycle, augmente l'état et la perception de fatigue. Le cycle menstruel a aussi des impacts sur la qualité du sommeil et la capacité de thermorégulation du corps. Les menstruations ne sont donc pas anodines chez quelqu'un qui doit faire un saut dynamique, souligne Mylène Aubertin-Leheudre. Néanmoins, lorsqu'on regarde les recherches objectives, il ne semble pas ressortir d'effets significatifs d'une certaine phase du cycle ou d'une certaine concentration d'hormones associée à un niveau de performance, nuance Florence Morin. Les études se contredisent, et il en manque, parce que c'est un vrai sujet tabou, selon Mylène Aubertin-Leheudre. La patineuse artistique, Marjorie Lajoie, qui s'est classée 10e en danse sur glace avec son partenaire Zachary Laga à Milan-Cortina, comprend ses défis. Elle-même a vécu de très douloureuses et incapacitantes menstruations il y a 3 ans. « Ça affectait trop mes entraînements et mes compétitions », avoue-t-elle. Avec son médecin sportif, elle s'est tournée vers la pilule en continu, qui a permis l'arrêt de ses symptômes. Elle croit qu'il est bénéfique de parler de l'impact des menstruations sur la vie et la carrière des athlètes. « Ça devient moins tabou », glisse-t-elle. Pour Sylvie Béliveau, directrice Équité des genres et cofondatrice d'Égal Action, la prise de parole d'Amber Glenn permet d'ouvrir davantage le dialogue. On veut que les femmes se connaissent davantage, que les entraîneurs et le personnel d'encadrement soient mieux outillés, informés, conscientisés. S'entraîner selon son cycle menstruel, l'idée d'ajuster son entraînement en fonction des phases de son cycle, ce n'est pas supporté actuellement par la littérature, indique Florence Morin, qui souligne, elle aussi, qu'il manque encore de recherche sur le sujet. Plutôt que de faire des plans d'entraînement selon le cycle menstruel des athlètes, comme l'a fait l'équipe nationale féminine de soccer des États-Unis avant la Coupe du monde de 2019, on devrait plutôt préconiser une approche individuelle, estime Sylvie Béliveau, d'Égal Action. Chacune des athlètes peut vivre ses menstruations différemment, et plusieurs paramètres doivent être étudiés, dont l'alimentation, le sommeil et la récupération, évoque-t-elle. On ne va pas adapter l'entraînement parce qu'on est dans certaines phases, mais il faut plutôt se demander « L'athlète qui est en face de moi, comment elle se sent aujourd'hui ?» rappelle Florence Morin de l'INS Québec. C'était « Le cycle menstruel influence-t-il les performances sportives ?» un texte de Catherine Enfield et Florence Dancause, paru le 20 février 2026 dans La Presse.
Sont passés les animateurs de moins de 40 ans? Un texte de Étienne Paré, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse. À TVA et à Radio-Canada, la plupart des têtes d'affiche ont la cinquantaine, parfois la soixantaine. Ce n'était pas ainsi il y a 20 ans, voire il y a une dizaine d'années encore. Comme si le bassin de personnalité qui peuvent animer une émission à heure de grande écoute, avaient cessé de se renouveler. Lorsqu'on jette un œil à la programmation télé de la saison 2015-2016, la situation était tout autre. Les deux principales chaînes de télé confiaient encore les rênes d'émissions phares à des animateurs relativement jeunes et souvent peu expérimenté. À TVA, par exemple, Marie-Pierre Morin, qui avait alors à peine 29 ans, héritait de sa première émission à heure de grande écoute. À Radio-Canada, Jean-Philippe Vautier, 36 ans, faisait ses débuts en variété. Jean-Philippe Dion était aussi de cette nouvelle garde à l'époque. Signe que le milieu de la télé a pris de l'âge, l'animateur de 42 ans est encore parmi les plus jeunes têtes d'affiche du petit écran 10 ans plus tard. Je fais un peu partie de la dernière génération de gens qui peuvent se présenter comme des animateurs de métier. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent animer ont moins d'occasions de faire leurs preuves. Musique Plus, qui a été une école pour tellement de monde, n'existe plus. Il y a beaucoup moins d'émissions qui embauchent des chroniqueurs, observe l'animateur de Sucré Givré. J'en reçois encore des CV de gens qui veulent animer, dit Jean-Philippe Dion. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas quoi faire avec. Il n'y a plus tant d'opportunités pour eux. L'animateur et producteur s'est fait un point d'honneur de s'entourer de nouveaux venus comme collaborateurs à son émission Sucré Givré. Mais il ne se berce pas d'illusions. Mettre de nouvelles têtes en onde n'attirera pas davantage les jeunes qui ne regardent plus la télé traditionnelle. L'expérience d'abord. Il s'en trouvera toujours pour dire que les moins de 40 ans délaissent la télé traditionnelle parce que les principaux animateurs ont parfois l'âge de leurs parents. Or, faire ce calcul serait simpliste, selon Jean-Philippe Dion. S'il existe un lien entre les deux phénomènes, il est tout au plus indirect. La crise que vit le milieu de la télé a un lien avec le fait que l'on voit moins de nouvelles têtes, dans la mesure où il y a beaucoup moins de prises de risques qu'avant. Les budgets sont serrés. On a moins de jours de tournage. Le temps en montage est compté. On peut beaucoup moins se permettre de travailler avec quelqu'un qui a moins d'expérience, avance Jean-Philippe Dion. On valorise aujourd'hui davantage l'expérience que le vent de jeunesse que peut apporter un animateur à une émission, explique Jean-Philippe Dion, producteur, entre autres, du Tricheur. Dans le processus pour trouver un remplaçant à Guy Jodoin, à la barre du jeu questionnaire l'an prochain, c'est d'abord et avant tout ce facteur qui a été pris en considération. La décision s'est finalement arrêtée sur José Godet, dont la feuille de route est bien garnie. Déficit de notoriété. Les diffuseurs sont aussi moins portés à renouveler leur programmation. Il y a 20 ans, une émission de divertissement durait généralement quelques saisons avant d'être remplacée par une autre, même quand les cotes d'écoute étaient encore honorables. Aujourd'hui, les émissions qui fonctionnent bien sont pratiquement automatiquement reconduites. Infoman en est à sa 26e saison. Tout le monde en parle à sa 22e. Alors qu'En direct de l'univers dure depuis 17 ans. Toujours avec les mêmes animateurs, intrinsèquement liés au succès de leur émission. Il y a beaucoup de succès qui durent, ce qui explique en grande partie pourquoi il y a autant d'animateurs de plus de 50 ans. Par contre, quand je vois les nouveaux shows, ce sont quand même des gens plus jeunes. Je pense à Marie-Mé avec Big Brother Célébrité ou à Marc-André Grondin pour Hot Ones. Ça me dit qu'il y a même un renouvellement. Mais c'est vrai que ce sont plutôt des gens dans la quarantaine que dans la trentaine. 40 ans, c'est pas mal le « sweet spot » en télévision maintenant. Observe Charles Lafortune qui entame sa 11e saison à la barre de La Voix. L'animateur de 56 ans vient d'une époque où ce « sweet spot » était plutôt dans la trentaine, la tranche d'âge dans laquelle se situaient, il y a 20 ans, les grosses vedettes de l'heure, comme Véronique Cloutier, Sébastien Benoît, Julie Snyder, Guy Jodoin, Julie Bélanger ou encore Mélanie Ménard. Bref, les mêmes qui sont aux commandes des principales émissions de divertissement deux décennies plus tard. C'est plus difficile aujourd'hui de trouver des trentenaires qui sont des points d'ancrage que tout le monde connaît, nous dit Charles Lafortune. De la même manière que quand on fait La Voix, c'est beaucoup plus difficile de trouver de nouvelles chansons que tout le monde connaît. Il y a moins de références communes, mais les annonceurs cherchent encore des gens qui ont une grande notoriété. Poursuit Charles Lafortune, qui porte également le chapeau de producteur. Moins d'intérêt à animer. Pour la saison 2025-2026, la moyenne d'âge des animateurs à Radio-Canada s'élève à 52 ans et à 53 ans pour TVA. C'est 10 ans de plus qu'à Novo, qui ne s'est jamais caché de vouloir rejoindre un auditoire plus jeune, notamment avec Occupation Double et ses deux animateurs dans la vingtaine. Le vieillissement des têtes d'affiche à la télé est un sujet vraisemblablement délicat pour les diffuseurs. Ni TVA, ni Radio-Canada n'a accepté de nous parler. Le producteur Guy Villeneuve insiste pour dire qu'il ne note aucune réticence de la part des grands réseaux à embaucher des animateurs plus jeunes. Au contraire même. Il se souvient que TVA était emballé à l'idée que Sarah-Jeanne Labrosse anime la compétition de danse Révolution, produite par sa boîte Fairplay. C'est plutôt la comédienne, à l'époque dans la fin de la vingtaine, qui s'est longtemps montrée hésitante, avant de finalement se laisser convaincre. S'il y a moins de jeunes qui animent à la télé, c'est aussi parce qu'il y a moins de jeunes qui veulent animer. Avant, tous les humoristes voulaient avoir leur émission. Ça leur permettait de vendre des tickets, de rester dans l'œil du public entre deux tournées. Ils en ont beaucoup moins besoin maintenant. Pour dire oui à un projet, il faut vraiment que le concept leur parle, souligne Guy Villeneuve. Méthodologie. Dans le cadre de cet article, nous avons analysé la grille horaire des trois grands réseaux généralistes durant l'automne et l'hiver 2025-2026, 2015-2016 et 2005-2006. Nous avons pris en compte l'âge des animateurs des émissions de divertissement. Cela inclut « Salut bonjour » et « Salut bonjour week-end », mais pas les émissions d'information, comme les bulletins de nouvelles, Enquête ou JE. Les émissions qui font partie du mandat de Radio-Canada, comme Découverte ou La Facture, n'ont pas non plus été prises en considération. Nous ne sommes pas non plus intéressés aux émissions diffusées en plein cœur de la journée, le week-end. C'était Où sont passés les animateurs de moins de 40 ans? Un texte de Étienne Paré, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse.